Merci Pierre pour cette première salve, on va dire, sur le thème de l'authenticité et de la nostalgie. Alors, j'ai beaucoup apprécié le passage sur la reconstruction du country typique. C'est le poids, on va dire, de l'extérieur, l'empreinte, mais... Je me souviens d'études qui avaient montré que c'était autour du folklore des Landes en France, hein, et les chercheurs avaient montré qu'en fait, dans le corpus folklorique, on trouvait aussi des morceaux qui étaient en fait repris de la variété et folklorisés en quelque sorte par les gens qui jouaient. Donc en fait, il y avait aussi cette dynamique interne. Et je me posais la question de savoir, pour le punk, où est-ce qu'on mettrait, par exemple, ce qui a fait jaser à l'époque, en francophonie au moins, avec Plastic Bertrand, ça plane pour moi, parce que tout de suite, en 77, on était sur le pastiche du pastiche. Et là où ça se complexifie, c'est que des groupes comme The Damned l'ont repris, en ont fait un morceau en anglais, Jet Boy, Jet Girl, donc c'est redevenu un morceau punk derrière. Donc c'est absolument fascinant, cette question d'authenticité, parce qu'on joue avec les codes, et puis, hop, il y a une espèce d'hybridation. Donc je voulais avoir ton point de vue. C'est une première question que je pose sur cette question de l'authenticité comme reconstruction permanente, en fait, hein, finalement.
Ah, voilà, Plastic Bertrand, c'est un nouveau cas qui montre justement que l'authenticité, c'est une construction permanente. Donc la réponse un peu en ta question.
C'est ma question.
Parce qu'effectivement, quand il arrive en France, vu qu'il y a une scène qui est déjà en place, on voit bien que c'est un truc qui est... pastiche de pastiche, une commande de studio, et donc la scène elle-même lit ça comme ça, donc va décider que c'est inauthentique, et donc on voit bien que c'est la scène qui va construire ce jugement-là, mais après coup, effectivement, notamment à l'étranger, parce que ce sera plutôt là, j'ai l'impression qu'il y a peu de cas où il y a des gens qui ont un capital punk développé, qui sont intégrés dans la scène, qui vont juger cette chanson... bien, mais disons, à l'étranger où il n'y aura pas cette connaissance que voilà, ce serait à la base du faux punk qui va être jugé comme voilà, c'est une super chanson punk française et va être jugé authentique par exemple des groupes anglophones qui vont reprendre cette chanson là comme n'importe quel autre. Donc on voit bien que c'est une notion qui est en débat et relative en fonction des contextes nationaux, mais aussi simplement des scènes locales. Même des groupes moins problématiques que, pas forcément problématiques, mais moins évidemment commerciales que Plastic Bertrand, bah justement pour être jugé, si on prend les Clash, très rapidement, ils ont pu être jugés par certaines scènes comme « Ah, mais voilà, c'est notre groupe
c'est ce que tu dis,
légitime. »
Quand tu montres que d'autres. Ouais. Ça rejoint ma remarque liminaire, c'est-à-dire qu'en fait, les valeurs d'authenticité, elles sont dépendantes des postures qu'on a dans ce champ de concurrence. Parce que si on regarde bien, Crass dit ça de Clash, ils ont signé, donc en quelque sorte, ce ne sont pas des authentiques, ce sont des traîtres. Sauf que quand on écoutait Lucas Fox l'autre jour, premier batteur de Motorhead, hein, qui racontait cette époque-là, il disait au contraire, ils ont signé pour être le ver dans la pomme, c'est-à-dire noyauter le punk, enfin les majors, et les pourrir de l'intérieur. Donc on voit bien que chacun a sa vérité et son authenticité et sa manière de faire. Et quand je parlais de champ de concurrence dans la perspective bourdieusienne, c'est-à-dire comment on définit la légitimité de son discours, bon, on y est, moi, il me semble. Hein.
Puis aussi, ce qui est important, c'est de voir que ces logiques-là, typiquement, c'est comment on est subversif. Est-ce qu'on est subversif en étant totalement autonome, indépendant, ou est-ce qu'on va rentrer dans les labels, amener notre... C'est quelque chose qui est dès le départ, donc... Ce qu'il faut bien dire, c'est que quand quelqu'un dit voilà, nous, tel groupe est authentique, quand on a juste dit ça, on n'a encore rien dit. C'est-à-dire qu'il faut se demander qu'est-ce qu'on entend par authentique dans ce moment-là, quelles sont les valeurs, et que ça renvoie en rien à un état essentiel ou le premier état de la scène, parce qu'il y a toujours cette contradiction.
Et juste après, je donne la parole à Sal, j'avais une question qui peut-être faire l'articulation avec la nostalgie. Comment tu analyses. J'ai cru que tu allais en parler, mais ce phénomène des vieux groupes, alors soit ceux qui durent, mais surtout ceux qui se reforment, y compris les Pistols, hein, sur cette question de la nostalgie, de l'authenticité. Et deuxième partie de la question, tu as même des vieux groupes dans lesquels il n'y a plus un membre original. Je pense à Dr. Feelgood, par exemple, qui continue à tourner, mais il n'y a plus un seul membre original. Ils ont le répertoire, donc on a l'authenticité d'un côté du répertoire, mais il n'y a plus un membre de la formation originale. Donc ça pose quand même des questions assez fascinantes aussi sur ce que peut être le rapport à une forme de à la fois de nostalgie, mais aussi d'authenticité. Je sais pas s'il y a une réponse, hein, c'était un... c'est plus un commentaire peut-être par rapport à ta problématique sur la...
Ouais, je sais pas tout à fait comment répondre à ça, mais bon, je pense que vraiment ça s'inscrit, ça montre à quel point on est dans un élan de nostalgie actuellement dans la scène punk, avec voilà, ce retour des anciens groupes, des fois dans les logiques commerciales, mais aussi des fois simplement pour voilà, revivre ces pratiques-là, et puis retrouver son public, avec un public qui aussi a envie de retrouver ça. Et puis... voilà, donc...
Dr. Feelgood n'est pas considéré comme punk.
Bah, alors celui-là, on va
voilà,
tomber,
là, on
va tomber
retombe
sur
dans les
votre...
débats avant.
Ouais. Bah, pour toi, si. Non, mais, en 77, quand il passe à Mont-de-Marsan, ça fait aucun doute, si tu veux. Ouais. Donc, la question de la... Enfin, on va pas la poser là, parce que ça va recomplexifier le problème. On peut le dire pour d'autres groupes, bijoux,
mais
etc.
Mais une filiation dans le jazz, par exemple, ou le fait que des groupes évoluent en permanence en gardant le même nom, dans des styles musicaux, c'est pas problématique. Et en fait, Dr. Feelgood est avant tout un groupe de pub rock.
Bon,
avant...
Prenons UK Subs, il reste Charlie Harper, mais c'est plus les musiciens originaux. Enfin, si tu veux, ça.
Le
phénomène est exactement le même pour tous les groupes. Donc, c'est à Pierre qu'il faut poser la question.
J'ai justement un exemple tout pertinent de cette idée de est-ce qu'on reforme un groupe et quelle nostalgie et authenticité. Ce matin, je suis tombée sur Internet sur un truc sur les studios, je ne sais pas si c'est Info ou Intox, mais célébrer le fait qu'un des membres est mort ce jour il y a 4 ans. Et il parlait d'une reformation dans cet article. Donc, la réaction, tout de suite, je pense, de quelqu'un qui connaît le punk et de « mais c'est pas possible, il n'y a plus. Il n'y a plus de studios, il n'y a que des hip-hop. » Donc, c'est... voilà, donc c'est impensable, je pense. C'est impensable et je pense pas qu'il y a des gens, qui, étant donné que les studios ont fait la reformation, par exemple, je ne vois même pas comment des gens qui connaissent pas ça, ils devraient aller le voir. Ça, c'est pas un remarque scientifique, c'est juste un exemple de bon sens.
Ouais, on pourrait multiplier ce genre d'exemples aujourd'hui. Ça, c'est un peu clair. Ouais.
Moi, c'est pas tout à fait la question, mais c'est vrai que le fait de travailler aujourd'hui sur le punk, 40 ans après, plus de 40 ans après ses débuts, ça amène justement à des thématiques comme ça, du vieillissement des acteurs, de la nostalgie. Et fatalement, on est à un moment charnière où justement certains groupes sont poussés aussi à revenir sur scène parce qu'il y a une attente aussi du public. On attend de voir un petit peu ce dont ils sont capables. Il y a un goût du public à aller retrouver ces groupes, même s'ils ne sont pas forcément tous d'origine. Et il y a aussi la question qui se pose justement de la temporalité spécifique pour cet objet du punk. On arrive avec ce groupe de recherche à un moment vraiment où les 40 ans supposés du punk, alors on est à plus de 40 ans quand même, amène la lumière médiatique aussi sur cet objet. Du coup, je pense que ça peut peut-être créer une réponse du mouvement, parce qu'il y a des attentes aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux de ce type et des réponses qui sont données parce que le public, mais aussi éventuellement les tourneurs, les acteurs... du monde du disque et les salles, les titis peut-être aussi, quoi. Donc on est là, en tant que chercheur aussi, à un moment particulier. Non, je sais
pas. Oui, moi, je pense tout à fait qu'on est vraiment dans une époque
ça joue aussi
charnière.
Cet anniversaire, avec tous les, comme tu disais dans ton introduction.
Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit 40 ans, ces chiffres si importants, mais il y a ce élément-là. Mais voilà, c'est que dans de longues décennies, le punk, je pense, n'a pas beaucoup intéressé en dehors de lui-même. Et là, il y a ce moment des phénomènes de mémoire extrêmement importants qui fait qu'il est investi d'abord par. Ça a commencé peut-être, investi par les lieux de musée. Je pense que c'est un peu là que ça a commencé en France, où il y a eu les grandes expositions. Ensuite, c'est le monde académique dont représente une des volontés de travailler là-dessus, puis au-delà de ça, des émissions, donc voilà, tout le monde commence à en parler, donc effectivement ça suscite aussi la volonté des témoins de dire qu'ils ont l'impression que leur mémoire leur échappe, de se reformer pour montrer à la fois qu'ils sont encore vivants, mais aussi entendre eux ce qu'ils ont à dire sur leur propre histoire, mais ce qui en retour peut justement faire qu'ils ont tellement peur de se voir voler leur histoire que ça renforce peut-être encore la dimension nostalgique du discours. Et voilà, l'autofiction. Et
ça crée de nouveaux discours. Enfin, ouais. C'est un empilement, du coup, il y a un emballement qui fait que l'objet il est affecté aussi par.
Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai introduit mon propos sur ce que la science fait au cancer. En fait, ce que le simple fait de construire un projet, de l'organiser, etc., provoque dans le champ, sur le terrain, et comme perturbation en fait. Et c'est méthodologiquement parlant aussi à ce type d'aspect qu'il faut être attentif.
Au niveau de chaque chercheur, mais aussi au niveau de l'ensemble des chercheurs. Parce que ce qui se peut, en ethnographie, en sociologie, on fait une recherche, mais là ça se passe à un niveau macro.
Il y avait aussi une question ou une remarque.
Cette histoire, oui, c'est justement aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, ils remettent un peu ce que vivent les jeunes de l'année 70 avec Internet. Du coup, là, le public qui demande qu'un groupe mythique, entre guillemets, se reforme, on a vu le cancer des Rolling Stones l'année dernière, par exemple, c'est surtout les millennials, ces jeunes hyper connectés qui n'ont pas forcément vécu le vrai punk, qui n'ont pas participé à la scène, mais qui, avec Internet, avec des photos d'archives, je pense notamment à un article de Vice où il montrait des photographies de la scène punk française dans les années 80, qui est demandeur. Donc c'est un peu aussi un côté mode aujourd'hui. Donc le punk, c'est devenu quelque chose qu'on a envie de voir, qu'on a envie de connaître, mais il y a aussi beaucoup d'aspects branchés là-dessus.
C'est le côté vintage.
Oui, c'est un peu oui.
Le mot n'a pas été prononcé.
C'est on voit surtout dans la mode.
Donc, c'était authentique aussi, justement. Enfin, je pense que toute la génération Internet, entre guillemets, on est à la recherche de quelque chose de concret, d'authentique. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on va essayer de réexplorer cette thématique-là. Parce qu'on y cherche, c'est comme un paradis perdu pour nous aussi.
Du coup, ça ne touche pas que le mouvement punk, on voit aussi dans le mouvement rap avec NTM et IAM qui remontent sur scène, le Wu-Tang qui continue de tourner alors que moitié des groupes ne sont pas là, donc il y a cette recherche d'authenticité.
J'aimerais poser la question de savoir si tu as étudié ça dans une perspective historique, c'est-à-dire finalement, moi j'ai l'impression qu'il y a un processus assez classique de reconstruction nostalgique d'une époque. Moi, je commence à me dire, bon, quand j'étais jeune, les 60s, les 50s, donc des films grises, tout ça, c'était finalement un grand classique. Et même si on va plus loin, les 50s, moi j'ai connu l'époque où les speakeasies, tout ça, c'était un truc, vers les années 70, pareil, il y avait une espèce de nostalgie. Et puis en allant plus loin, la Belle Époque, c'est pareil. Et finalement, le film, en allant plus vers la littérature, mais Midnight in Paris de Woody Allen, montre à quel point ce processus de bulles nostalgiques joue. Alors, bien sûr, tu as parlé de la mode, et c'est évident que la mode joue un rôle essentiel là-dedans, mais finalement, est-ce qu'en historique, est-ce qu'on est en allant plus loin, est-ce que finalement c'est un processus qui a toujours existé, est-ce qu'on sait ça?
Le début de la nostalgie, j'avais pas, je pense
ça. Non, mais ce que j'appelle une reconstruction, c'est-à-dire une fiction narrative qui consiste à finalement reprojeter une époque. Alors l'exemple, dans ce que tu évoquais justement, la nostalgie des jeunes sur les 60s, il y a un clip des 70s, il y a un clip qui est à mourir de rire, c'est mes filles qui m'ont montré ça, c'est une espèce de chanson assez pop d'une jeune fille d'aujourd'hui, qui dit la nostalgie du punk, et en fait toutes ses références sont hippies en fait. Je sais pas si vous avez vu ce clip, mais il faudrait que je le retrouve, mais ça m'a fait mourir de rire, mes filles. Oh, t'as eu de la chance de connaître cette époque-là, et j'ai dit mais c'est drôle, parce que ok c'est joli, c'est mode, tout ça, en fait toutes ses références, c'est absolument pas le punk, c'est
que l'antipode.
Mais, ouais, mais pour elle, c'est la même chose finalement, parce que avec l'effet de projection, la mise en distance, et dans les faits, quand on regarde bien le nom, par exemple de Dr. Feelgood, c'est super, parce que le film, quand on voit le film, on voit qu'au début, ils étaient dans une logique hippie, les Dr. Feelgood. En tout cas, Wilco Johnson. Mais bon, ma question c'était ça, l'espèce de projection de bulle. Est-ce que finalement c'est pas connu dans le monde de la mode ou dans les processus d'historisation.
Sur le côté cyclique, ça me paraît évident. Il faut se souvenir par exemple du succès des Stray Cats dans les années 80, oui, qui était le revival des années 60. Mais ça a été un truc incroyable, quoi. Hein.
Les Stray Cats, et les Cramps, c'est aussi une hybridation du 50s, du punk. Mais finalement, cette question, c'est est-ce que ce processus, la notion de mode, par exemple, c'est bête, mais la mode elle-même, dans le nom même, je pense que c'est ça, en fait. C'est une manière de créer des cycles. Bon, là, de mémoire, il y a un gars qui s'appelle Yves Michaud, je crois que c'est un historien d'art, je ne sais pas si vous voyez un peu. Il explique un peu cette problématique de... Lui, il dit gazéification de l'art, ensuite en le reprojetant pour les attentes du public. Voilà, mais c'est toute une... C'est un processus créatif, finalement, qui doit, alors qui est depuis recyclé par le marketing, ce qui n'existait pas quand on parle de la BD de l'époque et encore. Enfin, oui, franchement, si on se pose la question, est-ce qu'il n'y avait pas déjà les théâtreux, enfin des gens qui marchandisaient ça, finalement?
Non, c'est une bonne question, mais on peut...
C'est l'invention du old time comme label par les maisons de disques, dont le nom même explicite la charge de notre vie, de old time.
Et ça, par exemple, c'est quoi que ça m'intéresse, que je ne connais pas?
Ah, le old time, c'est l'ombre à la musique hillbilly, si on veut, quand elle est inventée. Dans les labels parallèles aux labels RES, qui sont montés sur le modèle des labels ethniques par les maisons de disques américaines dans les années 20.
D'accord.
Et le terme, le nom même, est old time. Ça renvoie donc au 19e siècle.
Il n'y a aucun
pour justement revenir à cette idée de mode, je pense que la seule créatrice qui est vraiment restée dans l'authenticité, entre guillemets, dans la pensée punk, c'est vrai qu'à Wakobu, du label comme des garçons, par son esthétique, du début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, ça c'est un défilé, est restée dans une esthétique minimaliste, très, qui reprend justement l'école de la pensée punk. Qui fait tout ce qui est ce qu'on appelle anti-fashion. Donc si ça est tendance, moi je fais un truc qui est contre ça. Alors que par exemple la collection de Vaporaban, fin des années 70, même Vivienne Westwood, elle vendait ses pièces d'une manière extrêmement chère. Et ça c'était aux antipodes justement de la pensée punk qui est dans la récupération. Un truc, tu prends un truc de tes parents, qui appartenait à tes parents, un truc trouvé dans une trépille, dans une poubelle. Voilà.
Encore qu'il y a le concept d'arnaque qui fait partie du punk, hein. Enfin, ça se discute. Tout à fait. Mais c'est normal, on peut plus rebondir. Hein.
Tout à fait.
Enfin, quelque part, il y a souvent, par exemple, le besoin de se procurer de la dope qui faisait que si on pouvait arnaquer son voisin, ça faisait partie du truc. Hein.
Pareil pour l'histoire de l'épingle de la nourrice. Enfin, qui a créé l'épingle de la nourrice. À Paris, par exemple, je crois que dans l'un de ses articles, Alain Bacadi, il parlait... de ces jeunes bobos français qui venaient aux soirées entre guillemets punk à Paris, parce que le punk à Paris c'est un punk très bluesy, avec des épingles de la nourrice en or, ce qui est complètement antipode de la pensée punk, qui elle était dans des trucs vraiment crades, l'oreille était infectée, après on a mis les épingles et tout.
Très bien, merci. Ça c'est la pensée de Bacchanis, hein, son regard sur le punk parisien. Ouais. Mais c'est une représentation.
Ça montre bien qu'à chaque fois il y a des débats, et à travers ce débat sur les origines, c'est surtout un débat sur les valeurs.
Après, la nostalgie, ça se construit. C'est ce qu'on a essayé de montrer avec Solveig en étudiant tout le corpus de rock and folk, et pour montrer de quelle manière, en permanence, ils alimentent cette espèce d'idéal du punk 77. Et c'est lié aussi à une génération. Mais juste un exemple, c'est la charte graphique, quoi. Le jaune et le rose, et la manière... On l'a vu d'ailleurs dans le numéro spécial que tu montrais, toujours rappeler la pochette du Pistols, le premier Pistols. C'est en permanence, voilà. Ça, vous prenez Rock and Folk, il n'y a pas une année où vous n'avez pas un numéro avec ça ou une publicité. Alors voilà, donc on a écrit cet article dans le temps des médias, hein, ça peut vous servir de référence, parce qu'on a vraiment travaillé sur comment un média particulier, Rock and Folk, est tout le temps en train de revenir sur cette image-là. Et alors ça se comprend aussi, parce qu'à la fois c'est un effet générationnel, et en même temps ça correspond à l'âge d'or de la revue elle-même. C'est-à-dire c'est le moment où Rock and Folk a vendu le plus de copies papier. Donc il y a deux espèces de dynamiques qui se superposent. C'est le regard sur le punk 77 qui éclate à ce moment-là, et c'est les meilleures ventes de Rock and Folk. Et donc il y a ce retour en permanence de l'équipe, puis on les connaît bien, Manœuvre, etc. Hein, bon, et puis comment s'appelle-t-il, notre ami
Eudeline,
qui sont en permanence en train de revenir sur ces questions-là. Et avec des débats mémorables d'ailleurs, hein, la passe d'armes entre deux chassés qui avaient monté l'Expo Europunk et Patrick Eudeline, c'est un moment incroyable dans Rock and Folk. Hein, sur le ton, moi j'y étais, toi tu n'y étais pas. Donc on a vraiment des choses assez extraordinaires dans la revue Rock and Folk, il faut aller voir hein, comment la revue elle-même en permanence ça revient. Des fois c'est des petites vignettes, des fois c'est quand on interroge quelqu'un dans la rubrique médicale. Cas, moi, on voit bien hein, comment on met l'accent sur certains disques, mais pas d'autres. Enfin bon, c'est assez incroyable.
C'est où? C'est dans le temps des médias.
Le temps des médias.
C'est en ligne ouais. Sur le site internet de Pan.
C'est le thème du numéro, c'est l'âge d'or, de toute façon. C'est l'âge d'or, et nous, on avait fait un travail sur le punk, justement.
Donc vous avez bossé sur tout ce corpus
Sur rock and folk.
Et best
en perspective.
C'est Belleville, c'est quelle année?
Mais c'est ce qui est
trop.
Quel truc ?
Celle-ci. C'est fin 70. Je ne sais plus l'année exactement. Il faut que je la retrouve. Ouais.
Est-ce que la revue Rock and Folk a été pertinente à l'époque du punk, justement ?
Enfin, avec un peu de retard à l'allumage.
Ouais, avec un peu de retard, oui. Mais oui, elle a contribué quand même à.
Elle a révélé
une musique qui était essentielle, qui était aussi, autant lue que écoutée. Ouais. Voilà. Et après, elle l'a mis à la poubelle, le punk. Mais comme tout métier.
Il y a le fameux article sur les Ramones de Manœuvre qui fait rigoler tout le monde aujourd'hui.
Oui, oui, sur sa critique du premier Ramones.
Critique du premier album.
Non, mais c'est vrai.
Il
n'a pas raté que ça, il a raté assez
d'essais. Il a raté
d'autres choses. Mais bon, ça, c'est la posture de la critique. Mais globalement, oui. Enfin, si tu veux, la revue, quand tu regardes avec 6 mois, 1 an de décalage, ce qui est énorme, hein, par rapport à ce qu'on estimait l'explosion de punk en 1976, on commence à avoir beaucoup d'articles sur le punk, y compris la publicité d'ailleurs. Alors bon, c'est un encart particulier la publicité, mais on voit bien de quelle manière tout ça compose. Et on voit aussi comment il y a une espèce de théâtralisation du punk, parce que vous avez des musiciens comme Christian Vonder, par exemple, le leader de Magma, qui ne sont quand même pas réputés être punk. Mais vous voyez le gars posé en 1977 devant le mur où il y a tagué derrière punk. Et la pochette de leur album de l'époque, c'est à une grosse épingle à nourrice, hein, c'est un personnage. Donc on voit comment il y a une espèce de punkisation, en fait, du moment, et Rock and Folk participe vraiment à ça. Vraiment à ça. Donc, alors évidemment, après, la revue revient un petit peu de manière cyclique vers cette espèce d'âge d'or des années 76, 77, 78. Mais oui, globalement, elle est pertinente, pour peu qu'on puisse dire qu'un média est pertinent par rapport à un objet, mais il y a des articles sur le punk, il y a des critiques, il y a des photos.
Et ceux qui l'ont fait passer dans le mainstream, parce que pour toucher la France profonde avant Internet, bien sûr qu'il y avait Rock News et des trucs comme ça, mais c'était réservé à quelques branchés.
Évidemment.
Évidemment que c'était plus pointu, mais il n'y avait pas encore des fanzines à grande diffusion. Donc la plupart, moi je vois les gens de ma génération qui ont formé des groupes en 77, c'était le courrier des lecteurs de Rock'n'Roll.
Exactement.
Mais complètement.
Et ils envoyaient des lettres.
Exactement.
Au courrier des lecteurs de Rock'n'Roll.
Et du coup, c'est aussi eux qui l'ont mis à mort, le punk en 78 aussi. Enfin, parce que les groupes n'ont pas arrêté. C'est la presse qui a déclaré.
Mais ils partent tous à peu près quand même, et même dans la critique de Rock'n'Roll. C'est-à-dire, de toute façon, quand on s'inscrit anti, quelque part, on légitime ce qu'on critique. Or, ce n'était pas le Figaro qu'on allait délégitimiser, c'était bien. On était pour ou contre Rock and Folk et Best quand même. Hein. Peut-être pas 70, là je sais pas, mais.
Ça mériterait une étude. Hein.
Mais en tout cas, ils se battent un petit peu là-dessus, mais ils ont grosso modo Rock and Folk, plutôt Best considéré comme plus proche du punk. Hein.
Oui.
Voilà, mais bon.
Sans doute. Avec
mais aussi parce que Best était issu des fanzines, enfin avait un format qui correspondait déjà plus aux fanzines,
non,
puis
c'est
après
parce qu'il
avait
était plus
évolué.
Jeune.
Ouais, mais c'est pas le même journal de toutes les façons.
C'est que dans la rédaction de Rock and Folk, il y avait des vieux qui tenaient un peu la baraque et qui étaient un
et
peu
alors,
descendants.
Ça se voit justement parce qu'effectivement, Best propose des articles sur le punk avant Rock and Folk, par exemple. A déjà compris qu'il se passait quelque chose, notamment à Londres. Enfin, va voir. Est-ce qu'ils étaient légitimes? Tu vois, par exemple, le Festival de Mont-de-Marsan, ils sont quand même passés un peu à côté tous. C'est-à-dire que bon, il y a trois lignes par-ci, trois lignes par-là, bon. Enfin, on est beaucoup plus préoccupé par le festival d'Orange, par la guerre des grands festivals, que par ce qui se passe au niveau de la scène punk qui est en train de se structurer. Donc,
En fait, ma question, c'est est-ce que Rock'n'Folk a toujours été comme ça aujourd'hui? Un peu, quand même. Alors, je veux dire, c'est quand même, ils étaient quand même un petit peu à côté de la plaque, en retard, un petit peu, quoi. Après,
oui, mais ça reste le principal moyen d'information à l'heure en 76, en fait.
Oui, maintenant c'est le
Moi. Vraiment dans le contexte de l'époque, il faut bien voir. C'est pas dans Télérama qu'on a les documentés.
C'était pratiquement la seule chose qui existait.
Ni même dans les fanzines.
Non, il y a des fanzines qui sont arrivés après. Enfin,
oui, mais c'était confidentiel.
Il y a de Rock News, mais Rock News, enfin, vraiment, c'était pour les branchés.
En même temps, t'as acheté Rock'n'Folk et tu cherchais vainement le petit encart où ils allaient parler de un truc punk. Voilà, ça, c'était vraiment une trace dans.
Oui, mais ça, pour allumer, pour allumer un feu à travers toute la France, il n'y avait pas besoin. Je veux dire, il y a toujours eu comme ça ces petits effets de entre les lignes. Et de toute façon, toutes les communautés musicales ont fonctionné comme ça. Les amateurs de musique brutiste, etc., ils n'ont jamais eu leurs grands médias et ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est qu'ils se retrouvent entre eux sur quelques lignes de rock et folk. Ça leur suffit. Ils ont des fois un journaliste dans rock et folk.
Bon, mais moi, ma remarque valait juste pour le fait qu'on voit que la revue sur 40 ans, il y a quand même quelque chose qui est. Puisqu'on parlait de la nostalgie, il y a toujours cette espèce de retour vers espèce d'événement idéalisé ou de suite d'événements des années. Milieu des années 70.
Il faut pas rajouter Antoine de Caunes sur la télé qui a joué un rôle.
Oui, non, mais là, moi, j'ai pris ce média parce qu'on avait travaillé dessus et qu'il y a des choses qu'on peut objectiver de manière assez claire
en
termes de charte graphique.
C'est grosso modo rock and folk best d'un côté et quand même la télé, ce qui est un peu étonnant quand on voit qu'il y a pour une fois et pas passé à côté.
Mais je crois qu'il faudrait travailler sur ces questions parce que en fait on a toujours eu ces idées-là. Il y avait des émissions fortes comme ça qu'on fait passer, comme les émissions où les Bérus sont passés pour la première fois devant un grand public, etc. Et ben je sais pas en fait si ça a tout déclenché. Je sais pas, ça déclenche des choses, c'est des moments, mais c'est pas ça qui fait exister les choses. Choses, elles existent.
Ah oui.
Elles existent depuis des mois, des années, avec des milliers de gens qui traversent ça et qui le partagent en France à une époque où t'as pas d'internet, où t'as encore pas de portable. Enfin, il y a des liens, je vois, en retravaillant des choses que. Moi, j'avais un fanzine, il était vendu dans des boutiques, je me souviens un peu le nom de ces boutiques, dans des villes, je savais pas que c'était vendu à Saint-Etienne. Donc, il y avait tout un réseau qui existait sans ça. Et ça, l'a fait exister, l'a mis en valeur. Et c'est après, dans une histoire qui devient vachement une histoire des médias, plutôt qu'une histoire des choses elles-mêmes, on met en valeur ça. On met en valeur des passages, on met en valeur des articles un peu célèbres, etc. Ou même des dates, hein, le concert, événement, machin, mais finalement, il y avait 2000 mecs, mais il n'y avait que 2000 mecs.
C'est
voilà.
Ça, moi, je pense que méthodologiquement parlant, il faut arriver à trouver sur quoi travailler. Les événements emblématiques, par exemple, ce qui focalise la mémoire, qu'on y était ou pas, et la manière de les reconstruire, parce qu'on parle souvent de Mont-de-Marsan, voilà un événement emblématique. Et quand tu écoutes les gens qui t'en parlent, tu as l'impression qu'il y avait 3 millions de personnes. En fait, non. Mais ça a marqué la mémoire et ça participe justement de ces effets de nostalgie, de retour vers le passé ou d'idéalisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. On a essayé de faire une journée d'études là-dessus sur les événements emblématiques. On n'avait pas trouvé assez de gens pour parler. Mais moi, je pense que la manière de travailler sur ça, oui, c'est un aspect parmi d'autres.
Alors, méthodologiquement, moi, il y a vraiment un truc qui m'intéresse vraiment à fond, c'est l'aspect mouvement. C'est-à-dire comment un mouvement prend ses racines et ensuite se propage. Alors moi, je suis en ce moment un cours sur les réseaux sociaux, mais au sens, pas les réseaux sociaux numériques, mais le principe de propagation dans un réseau, de comment... Et ça, le rôle, par exemple, de la télévision, parce que c'est en fait, on passe d'un réseau qui est le réseau underground, donc celui des gens qui lisent les fanzines, etc., et tout d'un coup, les Bérus sortent un clip. Alors, effectivement, c'est pas forcément la diffusion du clip à la télé qui est en soi l'événement marquant, c'est le simple fait qu'ils ont fait un clip. Parce que je me souviens que dans les différentes soirées qu'on faisait, quand il y avait des vidéos, les gens passaient le clip des Bérus, il n'était pas encore passé à la télé, et déjà c'était une forme de... Et en fait, il y a des aspects comme ça, où à chaque fois, on se disait, avec les Bérus, ils ont franchi un palier. C'est-à-dire qu'il y a eu, quand la première fois qu'il y a eu du bordel parce que les gens n'arrivaient pas à rentrer, on s'est dit, là, il se passe vraiment quelque chose. Et c'est un mouvement, et ça, ça doit être vrai pour 77, ça doit être vrai pour le hip-hop. À chaque fois qu'on regarde un truc comme ça, on doit pouvoir construire une généalogie et avoir une approche que je qualifierais d'approche réseau social, au sens comment se propage le mouvement. Et ça, je pense qu'il doit y avoir une méthodologie de...
C'est la sociologie de la tour, hein, sur l'acteur réseau, et la sociologie de la traduction, enfin, je pense, ça me semble, dans la manière que tu as de voir les choses, c'est ce que je ferais, quoi.
Et moi, j'irais jusqu'à Virginie Despentes, aujourd'hui, avec Vernon Subutex, parce que finalement, c'est des espèces de rebonds, on reprend la clientèle de cette époque-là, et puis on en refait quelque chose. Et si cette clientèle-là n'avait pas existé, je ne suis pas sûr que Vernon Subutex existerait. C'est-à-dire que s'il y avait juste le client de la narration, on raconte ça comme histoire, et si tout le monde était mort, je ne suis pas sûr que Vernon Subutex marcherait. Ouais.
Et en même temps, dedans, quand elle parle des personnages de Gougnaf Mouvement, si c'était que les gens qui connaissent Gougnaf Mouvement qui achetaient son bouquin...
Il y en aurait pas beaucoup.
Non, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a un effet, non, mais c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est comment
il y a des renvois. Et pourtant, ils s'attachent à ça. Et c'est le livre de cette génération-là, plus que d'ailleurs de la mienne.
Exactement. Bah, enfin, moi, une de mes idées là-dessus, c'est qu'on a les gens qui ont raté le train, ils en avaient tous un cousin, un frère, etc., qui y était. Et puis quelque part, c'est un moyen de revenir dans le truc avec le temps, puisque les trucs s'effacent. Et finalement, c'est un moyen de re-rentrer. Et la nostalgie, il y a un peu ça. J'ai raté le truc, j'étais pas à mes 68, mais quand même, bah, j'avais...
C'est ce que quelqu'un évoquait avec Internet tout à l'heure, c'est-à-dire une demande de retour vers le passé et de réactivation. Et chaque fois qu'on a des nouveaux médias, quelque part, c'est une espèce de plus en plus puissant, en plus, les médias, une espèce de bouffée encore
c'est
plus forte.
J'ai compris, Despentes, Beyoncé marche, ouais. Je mets Beyoncé dans Vernon Subutex, qui est un truc, qui est un disquaire qui a vécu dans les années 80, ancien punk, du coup, c'est... Ouais.
Bon, on va peut-être enchaîner, oui.
Qu'est-ce que vous pensez? On enchaîne et puis on fait...
On coupe peut-être un quart d'heure, je pense.
On coupe un quart d'heure, ouais. On va vous libérer un quart d'heure et puis on reprend avec Eric Wittersheim, okay. Sur les mêmes thématiques. Ouais.